Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique, la minute du CIDFF sur 48 FM avec aujourd'hui Emeline qui me rejoint. Bonjour Emeline.
Bonjour Ludovic.
Alors Emeline, aujourd'hui on va parler ensemble de la conciliation des temps vie pro, vie perso. Peut-être avant d'en parler, d'où ça vient, quelle est la définition de ce terme-là?
Oui, alors donc en fait ce terme-là, il émerge dans les années 70-80 avec la montée progressive de l'emploi féminin. Donc à l'époque, la question qui se pose, c'est celle de la conciliation travail-famille pour les femmes. Puisque en fait, en intégrant le marché du travail salarié, la question c'était comment les femmes allaient assumer conjointement leur rôle de mère et de travailleuse. Alors, pour pouvoir parler des temps, déjà, il faut les connaître. Alors, effectivement, on sait qu'il y a 4 grands temps qui sont désignés, notamment par le CNRS, qui sont le temps libre, le temps physiologique, par rapport aux besoins physiologiques, le temps domestique, et puis le temps travail-études. Et à ces temps-là peuvent s'ajouter ceux des transports. Donc en fait, ces 4 temps, c'est ceux qui sont étudiés sur une journée au global. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'articulation de ces différents temps.
C'est donc une réalité, mais pourquoi est-ce aussi présent aujourd'hui ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est très présent. Pourquoi ? Parce que ce qu'on peut voir, d'une part avec le développement des services collectifs, l'augmentation de l'offre des modes d'accueil du jeune enfant, l'extension des congés familiaux. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais pour autant, il y a des inégalités qui persistent, notamment en matière de répartition sexuée du travail, alors que ce soit sur les tâches domestiques ou les tâches en tant que parent, mais aussi... les temporalités de travail, on l'a vu avec l'évolution notamment en matière de télétravail, et bien sûr l'impact de la crise sanitaire qu'on a pu avoir en 2020.
Et du coup, à quoi sont dues cette persistance des inégalités ?
Alors, la persistance des inégalités, le plus souvent, c'est lié notamment à tout ce qui est services domestiques. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que donc il y a plus de femmes qui travaillent et donc qui délèguent forcément ces fameuses tâches domestiques à potentiellement d'autres femmes moins qualifiées. Et donc, cela crée des inégalités entre femmes, pour le coup. Mais il y a aussi la question du temps consacré aux enfants, puisque on le sait, il y a au jour d'aujourd'hui une forte implication des papas. Et des mamans, bien sûr, mais on souligne l'implication des papas. Et donc, avec ça, il y a une évolution des normes de la parentalité.
Voilà, on a pu parler après de charge mentale, ce qui n'est pas l'objet de notre chronique, mais qui s'y rapproche. Du coup, est-ce que tu penses que la conciliation des temps peut être impactée par son inscription sur les territoires ?
Alors, tu fais bien de le souligner sur la question des territoires. En fait, tout à l'heure, je parlais de la question des temps de transport. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que suivant l'inscription des personnes dans leur territoire, alors selon l'organisation des villes, les horaires, la planification des transports, ça a vraiment une répercussion sur le temps qui est consacré. Et donc, il y a de plus en plus d'enquêtes, notamment sur la rareté des services et des longues distances à parcourir entre le domicile et les espaces sociaux. Alors ça peut être le travail, ça peut être les loisirs, et notamment et bien évidemment en Lozère, où effectivement on sait que au jour d'aujourd'hui, dans nos petites campagnes, on est de plus en plus confronté à passer du temps sur la route, et ce qui est aussi corrélé en fait dans les grandes villes où les personnes passent à minima une heure matin, une heure soir dans les transports en commun.
On passe également beaucoup de temps sur Internet, on le sait. Qu'est-ce que tu penses du développement des technologies et du numérique par rapport à l'évolution des territoires ? Est-ce que finalement, ça a un impact sur la conciliation des temps ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, là aussi, il y a de plus en plus d'études, notamment sur la place qu'on donne à l'utilisation des technologies et du numérique. Alors, sur plusieurs points. D'une part, avec la question des technologies dites ménagères, alors des applications, des robots, l'amélioration au niveau technologique des outils qu'on peut servir pour faire le ménage, hein, notamment. À ce moment-là, on peut imaginer que du coup, si on utilise par exemple des robots, on aura plus de temps pour faire d'autres tâches, etc. Ou alors, on a des applications où on note pour faire ses courses, où on note les rendez-vous, où on note. Donc, potentiellement, on pourrait se dire que on optimise le temps. Et pour autant, selon les dernières études, notamment avec le CNRS, on voit bien que malgré cela, eh bien, on passe plus de temps le nez devant le téléphone à programmer tout ce qu'on a à faire plutôt que de passer du temps sur ses loisirs ou avoir du temps avec ses enfants, etc.
Donc là, on parle de la vie personnelle. Si on parle du côté entrepreneurial, est-ce que tu penses que la conciliation des temps, c'est plutôt un challenge ou une opportunité pour les entreprises ?
Alors aujourd'hui, la notion d'équilibre des temps de vie, c'est vraiment devenu une attente croissante de la part des salariés. Alors ce qu'on n'avait pas auparavant, là les dernières études montrent qu'on est à peu près à 97% en matière de ressources humaines sur des attentes de ce type. L'équilibre vie professionnelle et vie personnelle répond notamment à un objectif principal qui est le bien-être des salariés. Alors je vais pouvoir te parler de ce qu'on appelle la QVT, la fameuse qualité de vie au travail.
Tu penses que c'est un challenge des temps modernes ?
Alors, pour être un challenge, tu vas voir qu'effectivement, il y a plusieurs attentes ou tout du moins plusieurs conséquences au fait qu'on ne fasse pas très attention au bien-être de ses salariés. Alors, par exemple, une hausse de l'absentéisme et des retards des salariés par rapport au stress, à la fatigue, mais aussi une augmentation des risques de maladie, voire de burn-out de ces salariés. Il peut y avoir aussi un désengagement, hein, c'est-à-dire ne pas prendre en compte les attentes des salariés en matière de conciliation des temps peut facilement les décourager, c'est-à-dire qu'un salarié qui ne se sent pas forcément écouté dans son rôle de parent ou qui a besoin de se libérer pour telle activité, eh bien, peut-être être moins engagé dans son travail. Et ça peut avoir aussi une conséquence désastreuse en termes de morale, hein, du salarié et pour bien sûr la performance de l'entreprise. Tu vas aussi avoir un plus grand risque de turnover, hein, parce que forcément, si les personnes se sentent pas assez entendues et comprises, vont donc se désengager. Et fort probablement, tu peux avoir des risques de démission et donc un turnover enclenché. Et une baisse des candidatures. Alors, c'est quelque chose qu'on voit de façon générale, hein, à l'heure actuelle. On est quand même dans une période en pénurie de talents, si on peut parler comme ça. Et forcément, l'entreprise n'agit pas sur ce levier en mettant en place des actions concrètes. Les candidats, eux, peuvent se montrer moins enclins à postuler.
Et du coup, tu penses que ça a un réel impact en termes de QVT, ce dont on parlait tout à l'heure ?
Je pense réellement qu'il y a un impact parce que, au vu de ce que je viens de pointer, si il y a une meilleure prise en compte des salariés ou tout du moins des besoins des salariés en tant que personne, hein, au niveau des entreprises, potentiellement il y aura certainement une meilleure égalité professionnelle, une réduction de l'absentéisme, un recrutement facilité, une fidélisation des talents. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 60% des salariés qui seraient prêts à quitter leur entreprise pour un poste leur permettant une meilleure conciliation des temps. Et dernier gros point là-dessus, on en parlait tout à l'heure sur la question des gardes d'enfants, mais alors c'est une étude qui a été menée en 2022. 97% des représentants RH sont convaincus que les problèmes de garde d'enfants ont des incidences sur le fonctionnement de l'entreprise. Alors, à 57% des parents salariés estiment qu'un service de garde d'enfants est un moyen de réduire le stress au travail, hein, bien évidemment. Et pour 86% des RH, l'accès à des places en crèche est vraiment un moyen de réduire la charge mentale des parents et faciliter le retour à l'emploi des femmes, notamment.
Voilà, il y a tout un travail qui est fait sur les grosses entreprises, notamment pour les problèmes de garde d'enfants. C'est un peu moins vrai en milieu rural et sur les petites entreprises. Au début, tout à l'heure, tu nous parlais du Covid. Il y a eu une incidence sur les dernières décisions du gouvernement?
Oui, tout à fait. Il y a eu un communiqué de presse en date du 4 mars 2021 où effectivement la ministre du Travail, Elisabeth Borne à l'époque, et le secrétaire d'État, Adrien Taquet, en charge de l'enfance et des familles, avaient annoncé la mise en place d'une mission sur la conciliation des temps professionnels et familiales des parents. Alors, à l'époque, le sujet a été mis en lien avec le télétravail en raison du Covid et donc de la cohabitation des parents avec leurs enfants, puisque à l'époque, les écoles étaient fermées. Et selon Adrien Taquet, la situation a vraiment contribué à brouiller les frontières de la vie professionnelle et personnelle, parce qu'effectivement, dès lors qu'on se retrouvait à la maison, c'était beaucoup plus compliqué de vraiment avoir une distance franche. Hein, où ce qu'on a vu, c'est que près de 85% des jeunes parents indiquent manquer de temps et souhaiteraient bénéficier de congés supplémentaires dédiés pour s'occuper de leurs enfants. Parce qu'effectivement, le risque, c'était de passer beaucoup plus de temps au travail, vraiment, même en étant à la maison.
Alors, est-ce que dans tout ce portrait que tu nous dépeins, il y a quand même des bonnes nouvelles?
Bien sûr. Alors, le partage, du coup, encore aujourd'hui, hein, inégal des responsabilités domestiques entre les hommes et les femmes, du coup, amène les femmes à aménager leur vie professionnelle pour pouvoir mener de front emploi et vie familiale. Alors, tu vois, cet état de fait, ça engendre bien sûr des conséquences sur leur rémunération et sur le déroulement de leur carrière à long terme. Donc, ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est que seuls 48% des mères en couple avec 3 enfants ou plus sont en activité, quand au moins un des enfants est âgé de moins de 3 ans. Alors, malgré ce contexte qui, bien sûr, est pas très glorieux, je te l'accorde, il y a quand même une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle avec ce qu'on voit, un rééquilibrage des tâches parentales entre les femmes et les hommes. Et le gouvernement a abondé dans ce sens, d'ailleurs, puisqu'à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant est doublée. Et donc, elle est passée de 28 jours contre 14 jours auparavant. Voilà ce que je peux te dire en termes de bonnes nouvelles. Et on en espère d'autres, bien sûr.
Un conseil pour terminer cette émission?
Oui, bien sûr. Alors, pour toutes celles et ceux qui souhaitent des informations en lien avec donc la qualité de vie au travail, sur la conciliation des temps. Bah, d'une part, moi, je ne peux que vous inviter à solliciter la personne en charge de la qualité de vie au travail dans votre entreprise, mais aussi donc à l'échelle de votre employeur. Et puis, s'il y a besoin, eh bien, passer par les représentants du personnel, s'il y en a, les syndicats peut-être, ou bien la médecine du travail qui peut vous écouter. Et puis, s'il n'y a aucun recours possible, eh bien, vous pouvez aussi demander un conseil juridique si vous vous sentez victime d'une potentielle discrimination, hein, en lien avec votre situation personnelle, professionnelle, familiale. Et donc, pour rappel, bien sûr, le CIDFF, avec la présence de notre juriste qui est aussi défenseur des droits, pourra peut-être vous aiguiller ou vous conseiller.
Merci, Emeline.
Merci à toi.